Chapitre 5 Sigismond Planus tremble pour sa caisse.
Une voiture, mon ami Georges, une voiture à moi, et pourquoi faire?
Oh, je vous assure, mon cher Risler, que cela vous est indispensable. Chaque jour, nos relations, nos affaires s'étendent. Le coupé ne nous suffit plus. D'ailleurs, il n'est pas convenable de voir toujours un des associés en voiture et l'autre à pied.
Croyez-moi, c'est une dépense nécessaire et qui rentrera bien entendu dans les frais généraux de la maison. Alors, résignez-vous.
Ce fut une vraie résignation. Il semblait à Risler qu'il volait quelque chose en se payant ce luxe inouï d'une voiture. Pourtant, devant l'insistance de Georges, il finit par céder, songeant à part lui. Ben, c'est Sidonie qui va être heureuse. Le pauvre homme ne se doutait pas que depuis un mois, Sidonie avait choisi elle-même chez Milner le coupé que Georges Fromont voulait lui offrir et qu'on passait, soi-disant, aux frais généraux pour ne pas effaroucher le mari. Il était si bien l'être destiné à se faire tromper toute la vie, ce bon Risler. Son honnêteté naïve, cette confiance aux hommes et aux choses qui faisait le fond de sa nature limpide, se doublait encore depuis quelque temps des inquiétudes que lui donnait la poursuite de cette imprimeuse Risler destinée à révolutionner l'industrie des papiers peints et qui, à ses yeux, représentait son apport dans l'association. Sorti de ses épures, de son petit atelier du premier, il avait constamment la physionomie absorbée des gens qui ont leur vie d'un côté et leurs préoccupations d'un autre. Aussi, quel bonheur pour lui de trouver en rentrant son intérieur bien calme, sa femme de bonne humeur, toujours parée et souriante. Sans s'expliquer le pourquoi de ce changement, il constatait que depuis quelque temps, la petite n'était plus la même à son égard. Maintenant, elle lui permettait de reprendre ses anciennes habitudes. La pipe au dessert, le petit somme après dîner, les rendez-vous à la brasserie avec M. Cheb et M. de Lobel. Leur intérieur aussi s'était transformé en bel lit. De jour en jour, le confort y faisait place au luxe. De ses inventions faciles de jardinière fleurie, de salon ponceau, Sidonie arrivait au raffinement de la mode, aux manies de meubles antiques et de faïences rares. Sa chambre était tendue de soie bleue tendre, capitonnée comme un coffre à bijoux. Un piano à queue d'un facteur célèbre s'étalait dans le salon à la place de l'ancien, et ce n'était plus deux fois par semaine, mais tous les jours qu'on voyait apparaître sa maîtresse de chant, Madame Dobson, une romance roulée à la main. Petit passé singulier que cette jeune femme d'origine américaine, dont les cheveux d'un blond acide comme une pulpe de citron, s'écartaient sur un front révolté et des yeux de métal bleui. Son mari l'empêchant d'entrer au théâtre, elle donnait des leçons de chant, et chantait dans quelques salons bourgeois. À force de vivre dans ce monde factice des mélodies pour chant et piano, elle avait contracté une espèce d'exaspération sentimentale. C'était la romance elle-même. Dans sa bouche, les mots amour-passion semblaient avoir 80 syllabes tellement elle les disait avec expression. Oh, l'expression! Voilà ce que Mistress Dobson mettait avant toute chose et ce qu'elle essayait vainement de communiquer à son élève. On était alors au beau temps de cette « Ay Chiquita » dont Paris s'était gargarisé des saisons entières. Sidonie l'écoutait consciencieusement et toute la matinée on l'entendait chanter « On dit que tu te maries ». Tu sais que j'en puis mourir. Mourir, interrompait l'expressive Madame Thompson, on s'alanguissait sur les bennes du piano. Et elle mourait en effet, levait au plafond ses yeux clairs, renversait éperdument sa tête. Sidonie n'y arrivait jamais. Ses yeux de malice, sa lèvre gonflée de vie n'étaient pas faits pour ses sentimentalités de harpe éolienne. Les refrains d'Offenbach ou d'Hervé, piqués de notes imprévues, où l'on cède du geste d'un coup de tête ou d'un coup de rein, lui auraient bien mieux convenu, mais elle n'osait pas l'avouer à son langoureux professeur. Du reste, quoiqu'on l'eût beaucoup fait chanter chez Mademoiselle Lemire, sa voix était encore jeune et assez jolie. Privée de relations, elle en vint peu à peu à se faire une amie de sa maîtresse de chant. Elle la gardait à déjeuner et l'emmenait en course avec elle dans le coupé neuf, la faisait assister aux emplettes, aux achats de toilettes et de bijoux. Le ton sentimental et compatissant de Madame Thompson disposait aux confidences. Ses plaines continuelles semblaient vouloir en attirer d'autres. Alors Sidonie lui parla de Georges, de leur amour, atténuant sa faute par la cruauté de ses parents, qu'il avait marié de force à un homme riche et beaucoup plus âgé qu'elle. Madame Thompson se montra tout de suite disposée à les aider. Non qu'elle fût vénale, mais cette petite femme avait la passion de la passion, le goût des intrigues romanesques. Malheureuse dans son ménage, mariée à un dentiste qui la battait, tous les maris pour elle étaient des monstres, et le pauvre Isler, surtout, lui faisait l'effet d'un tyran épouvantable que sa femme était en droit de haïr et de tromper. Ce fut une confidente active et d'une grande utilité. Deux ou trois fois par semaine, elle apportait une loge pour l'opéra, les Italiens ou quelqu'un de ces petits théâtres à succès qui, pendant une saison, font traverser Paris à tout Paris. Aux yeux de Rissler, les places venaient de Madame Thompson. Elle en avait tant qu'elle voulait dans les théâtres de chant. Le malheureux ne se doutait pas que la moindre de ces loges à une première à la mode avait souvent coûté 10 ou 15 louis à son associé. C'était vraiment trop facile de tromper un mari comme celui-là. Son inépuisable crédulité acceptait tranquillement tous les mensonges, et puis ne connaissait rien de ce monde factice où sa femme commençait déjà à être connue. Jamais il ne l'accompagnait. Les quelques fois où, dans tout le commencement du mariage, il l'avait conduite au théâtre, il s'était endormi honteusement, trop simple pour se préoccuper du public, et d'esprit trop lent pour s'intéresser au spectacle. Aussi savait-il un gré infini à Madame Thompson de le remplacer auprès de Sidonie. Elle le faisait avec une si bonne grâce. Le soir, quand sa femme partait, toujours splendidement mise, il la regardait avec admiration, sans se douter du prix que coûtaient ses toilettes, ni surtout de celui qui les payait, et, libre de tout soupçon, il l'attendait au coin du feu en dessinant, heureux de se dire « Oh, comme elle doit s'amuser !» À l'étage au-dessous, chez les Fromont, la même comédie se jouait, mais avec un renversement de rôle. Ici, c'était la jeune femme qui gardait le coin du feu. Tous les soirs, une demi-heure après le départ de Sidonie, le grand portail se rouvrait pour le couper des Fromont, emportant monsieur à son cercle. Que voulez-vous? Il y a les exigences du commerce. C'est au cercle, autour d'une table de bouillotte, que se brassent les grosses affaires. Il faut y aller sous peine d'amoindrir sa maison. Claire croyait cela naïvement.
Son mari parti, elle avait d'abord un moment de tristesse. Elle aurait tant aimé le garder près d'elle, ou sortir à son bras, prendre un plaisir en commun. Mais la vue de l'enfant, qui gazouillait devant le feu et faisait aller ses petits pieds roses pendant qu'on le déshabillait, avait bien vite calmé la mère. Puis le grand mot, les affaires. Cette raison d'état des commerçants était toujours là pour l'aider à se résigner. Georges et Sidonie se rencontraient au théâtre. Ce qu'ils éprouvaient d'abord à se trouver ensemble, c'était une satisfaction de vanité. On les regardait beaucoup. Elle était vraiment jolie maintenant, et sa physionomie chiffonnée, qui avait besoin de toutes les excentricités de la mode pour faire son véritable effet, se les appropriait si bien qu'on les eût dites inventées exprès pour elle. Au bout d'un moment, ils s'en allaient, et Madame Dobson restait seule dans la loge. Ils avaient loué un petit appartement avenue Gabriel, au rond-point des Champs-Élysées, le rêve de ces demoiselles à l'atelier Lemire, deux pièces luxueuses et calmes, où le silence des quartiers riches, traversé seulement des voitures qui roulaient, enveloppait délicieusement leur amour. Peu à peu, quand il eut pris l'habitude de sa faute, il lui vint des audaces, des fantaisies. De ses anciens jours de travail, elle avait gardé au fond de sa mémoire des noms de bals, de restaurants fameux, où elle était curieuse d'aller à présent, de même qu'elle prenait plaisir à se faire ouvrir à deux battants les portes des grandes faiseuses dont toute sa vie elle n'avait connu que l'enseigne. Car c'était cela surtout qu'elle cherchait dans cet amour, une revanche aux tristesses, aux humiliations de sa jeunesse. Rien ne l'amusait, par exemple en revenant du théâtre ou d'une promenade de nuit au bois, comme un souper au café anglais, avec le bruit du vice luxueux autour d'elle. De ces excursions continuelles, elle rapportait des façons de parler, de se tenir, des refrains risqués, des coupes de vêtements qui faisaient passer dans l'atmosphère bourgeoise de l'antique maison de commerce la silhouette exacte et extravagante du Paris cocotte de ce temps-là. À la fabrique, on commençait à se douter de quelque chose. Les femmes du peuple, même les plus pauvres, ont si vite fait de vous éplucher une toilette. Quand Mme Rissler sortait vers 3 heures, 50 paires d'yeux envieux et clairs, embusqués aux vitres des ateliers de polissage, la regardaient, passer, voyant jusqu'au fond de sa conscience de coupable à travers son dolman de velours noir et sa cuirasse de jais scintillant. Sans qu'elle y prît garde, tous les secrets de cette petite tête folle volaient autour d'elle comme les rubans qui flottaient sur sa nuque découverte, et ses pieds finement chaussés dans leurs bottines dorées à 10 boutons racontaient en marchant toutes sortes de courses clandestines, les escaliers tendus de tapis qu'ils franchissaient la nuit pour aller souper, et les fourrures chaudes dont ils s'enveloppaient quand le coupé faisait le tour du lac dans l'ombre tachée des réverbères. Les ouvrières ricanaient, chuchotaient, « Mais regardez-la donc, cette tata bébelle ! Oh, voilà une façon de s'habiller pour sortir. Bien sûr que c'est pas pour aller à la messe qu'elle s'attifle comme ça. Et dire qu'il n'y a pas 3 heures, elle partait à l'atelier tous les matins avec son waterproof et 2 sous de marron dans ses poches pour se tenir chaud aux doigts. Maintenant, bon, ça roule carrosse. » Et dans la poussière du talc, au ronflement des poils, toujours rouges d'hiver et été, plus d'une pauvre fille pensait à ses caprices de la chance, transformant tout à coup l'existence d'une femme, et se prenait à rêver d'un avenir vaguement magnifique qui l'attendait, peut-être aussi, sans qu'elle s'en doutât. Pour tout le monde, Rissler était un mari trompé. À l'impression de tireurs, fidèles habitués des folies dramatiques, déclaraient avoir vu plusieurs fois Madame Rissler à leur théâtre, accompagnée d'un citoyen quelconque qui se cachait dans le fond de la loge. Le père Achille, lui aussi, racontait des choses étonnantes. Que si Denis eut un amant, qu'elle eut même plusieurs amants, personne n'en doutait plus. Seulement, on n'avait pas encore songé à Froment jeune. Pourtant, elle n'apportait aucune prudence dans ses relations avec lui. Au contraire, elle semblait s'y mettre une sorte d'ostentation. C'est justement cela, peut-être, qui les sauvait. Que de fois sur le perron, elle l'avait abordé effrontément pour convenir du rendez-vous du soir. Que de fois elle s'était plu à le faire tressaillir en lui parlant dans les yeux, devant tous. La première stupeur passée, Georges lui savait gré de ses audaces qu'il attribuait à l'excès de la passion. Il se trompait. Ce qu'elle aurait voulu, sans bien se l'avouer, c'est que Claire les aperçût, qu'elle entr'ouvrit les rideaux de sa croisée, qu'elle eut un soupçon de ce qui se passait. Il lui manquait cela pour être complètement heureuse, l'inquiétude de sa rivale. Mais elle avait beau faire, Claire Froment ne s'apercevait de rien et vivait comme Rissler, dans une sérénité imperturbable. Il n'y avait que le vieux caissier Sigismond de véritablement inquiet. Et encore, ce n'était pas à Sidonie qu'il pensait, lorsque, la plume à l'oreille, il s'arrêtait une minute dans ses comptes, les yeux fixés à travers son grillage sur la terre détrempée du petit jardin. Il ne pensait qu'à son patron, Monsieur Church, qui prenait maintenant beaucoup d'argent à la caisse pour ses dépenses courantes, et lui embrouillait tous ses livres. Chaque fois, c'était un nouveau prétexte. Il venait au guichet d'un petit air léger. « Oh, avez-vous un peu d'argent, mon Planus? Oh, j'ai encore été rincé hier soir à la bouillotte. Je voudrais pas envoyer à la banque pour si peu. » Alors, Sigismond Planus ouvrait sa caisse comme un regret pour prendre la somme demandée. Il se rappelait avec effroi certains jours où M. Georges, qui n'avait alors que 20 ans, était venu avouer à son oncle quelques 1 000 francs de dette de jeu. Du coup, le bonhomme prit le cercle en grippe et tous ses membres en mépris. Un riche commerçant qui en faisait partie étant venu un jour à la fabrique, il lui dit avec une naïveté brutale « Oh, le diable emporte votre cercle du château d'eau !» En 2 mois, Monsieur Georges a laissé plus de 30 000 francs chez vous. » L'autre se mit à rire. Mais vous vous trompez, Père Planus. Voilà au moins 3 mois que nous n'avons pas vu votre patron. » Le caissier n'insista pas, mais dans son esprit, une terrible pensée s'installa, qu'il retourna toute la journée. Puisque Georges n'allait pas au cercle, mais où passait-il ses soirées? Où dépensait-il tant d'argent? Évidemment, il y avait quelque histoire de femme là-dessous. Dès que cette idée lui fut venue, Sigismond Planus commença à trembler sérieusement pour sa caisse. Ce vieil ours du canton de Berne, resté garçon toute sa vie, avait des femmes en général et des parisiennes en particulier, une terreur épouvantable. Avant tout, pour mettre sa conscience en repos, il crut devoir prévenir Rissler. Il le fit d'abord d'une façon un peu vague. « Monsieur Charles dépense beaucoup d'argent, » lui dit-il un jour. Whistler ne s'en émut pas. « Oh, que veux-tu que j'y fasse, mon vieux Sigismond? C'est son droit. » Et le brave garçon pensait comme il le disait. À ses yeux, Fromongeon était le maître absolu de la maison. C'eût été beau, vraiment, qu'il se permît de faire des observations, lui, Whistler, un ancien dessinateur. Le caissier n'osa plus en parler, jusqu'au jour où on vint d'une grande maison des châles lui présenter une facture de 6 000 francs pour un cachemire. Il alla trouver Georges dans son bureau. « Faut-il payer, monsieur ?» Georges Fromont fut un peu ému. Si Denis avait oublié de le prévenir de cette nouvelle emplette, elle en prenait à son aise vis-à-vis de lui maintenant. « Payez, payez, père Planus » fit-il avec une nuance d'embarras. Et il ajouta « Oh, vous passerez cela au comte de Fromongeon. C'est une commission dont on avait chargé. » Ce soir-là, le caissier Sigismond, tout en allumant sa petite lampe, vit Whistler qui traversait le jardin et tapa au carreau pour l'appeler. « C'est une femme, » lui dit-il tout bas. « À présent, j'en ai la preuve. » En prononçant ce mot terrible « une femme », sa voix grelottait de peur, perdue dans la grande rumeur de la fabrique. Le bruit du travail environnant paraissait sinistre en ce moment au malheureux caissier. Il lui semblait que toutes les machines en mouvement, l'immense cheminée lançant sa vapeur à flocons, le tumulte des ouvriers à leurs travaux d'hiver, tout cela grondait, s'agitait, se fatiguait pour un petit être mystérieux vêtu de velours, paré de bijoux. Whistler se moqua de lui et ne voulut pas l'en croire. Il connaissait de longue date cette manie de son compatriote de voir en toute chose l'influence pernicieuse de la femme. Pourtant, les paroles de Planus lui revenaient quelquefois à l'esprit, surtout le soir dans ces moments de solitude, quand Sidonie, partant au théâtre avec Madame Dobson, s'en allait après tout le train de sa toilette, laissant l'appartement bien vide, sitôt que sa longue traîne avait passé le seuil. 10 bougies brûlaient devant les glaces, des menus objets de toilette dispersés, abandonnés, disaient les caprices extravagants et les dépenses exagérées. Whistler ne voyait rien de tout cela. Seulement, quand il entendait la voiture de Georges rouler dans la cour, il éprouvait comme une impression de malaise et de froid en pensant qu'à l'étage au-dessous, Madame Fromont passait ses soirées toute seule. Pauvre femme! Si c'était vrai, pourtant, ce que disait Planus, si Georges avait un ménage en ville, oh, mais ce serait affreux! Alors, au lieu de se mettre au travail, il descendait doucement, demandait si madame était visible, et croyait de son devoir de lui tenir compagnie. La fillette était déjà couchée, mais le petit bonnet, les souliers bleus, traînaient encore devant le feu avec quelques jouets. Claire lisait ou travaillait, ayant à côté d'elle sa mère silencieuse, toujours en train de frotter, d'épousseter fiévreusement, s'épuisant à souffler sur le boîtier de sa montre, et 10 fois de suite, avec cet entêtement des manies qui commencent, remettant le même objet à la même place d'un petit geste nerveux. Le brave Whistler, lui non plus, n'était pas une compagnie bien égayante. mais cela n'empêchait pas la jeune femme de l'accueillir avec bonté. Elle savait tout ce qu'on disait de Sidonie dans la fabrique. Et bien qu'elle n'en crût que la moitié, la vue de ce pauvre homme, que sa femme abandonnait si souvent, lui serrait le cœur. Une pitié réciproque faisait le fond de ces relations tranquilles, et rien n'était plus touchant que ces deux délaissés se plaignant mutuellement et essayant de se distraire. Assis à cette petite table bien éclairée au milieu du salon, Risler se sentait peu à peu pénétré par la chaleur du foyer, l'harmonie des choses environnantes. Il retrouvait là des meubles qu'il connaissait depuis 20 ans, le portrait de son ancien patron et sa chère maman Chorche, penchée près de lui sur quelques mignons ouvrages de couture, lui paraissait plus jeune et plus aimable encore parmi tous ses vieux souvenirs. De temps en temps, elle se levait pour aller voir l'enfant endormi dans la pièce à côté et dont le souffle léger s'entendait aux intervalles de silence. Sans s'en rendre bien compte, Risler se trouvait mieux, plus chaudement que chez lui, car certains jours, son joli appartement, qui s'ouvrait à toute heure pour des départs ou des retours précipités, lui faisait l'effet d'une halle sans porte ni fenêtre, livré aux quatre vents. Chez lui, on campait. Ici, on demeurait. Une main soigneuse disposait partout l'ordre et l'élégance. Les chaises en cercle avaient l'air de causer entre elles, à voix basse. Le feu brûlait avec un bruit charmant. Et le petit bonnet de Mademoiselle Fromont avait gardé dans tous ses nœuds de ruban bleu des sourires doux et des regards d'enfant. Alors, pendant que Claire pensait qu'un si excellent homme aurait mérité une autre compagne dans la vie, Risler, en voyant ce calme et beau visage tourné vers lui, ses yeux indulgents et spirituels, se demandait pour quelle coquine Georges Fromont délaissait une aussi adorable femme.
Chapitre 6. L'inventaire. La maison que le vieux Planus habitait à Montrouge s'accotait contre celle où les Chèbes avaient vécu quelque temps. C'était le même étage unique élevé sur un rez-de-chaussée à 3 fenêtres, le même petit jardin, treillage, les mêmes bordures de buis vert. Le vieux caissier demeurait là avec sa sœur. Il prenait le premier omnibus qui partait de la station le matin, revenait à l'heure du dîner, et le dimanche restait chez lui à soigner ses fleurs et ses poules. La vieille fille faisait le ménage, la cuisine, toute la couture de la maison. Jamais couple plus heureux. Tous deux célibataires, ils étaient unis par une haine semblable du mariage. La sœur abhorrait tous les hommes, le frère avait toutes les femmes en défiance. Avec cela, ils s'adoraient, se considérant chacun comme une exception dans la perversité générale de leur sexe. En parlant de lui, elle disait toujours « Monsieur Planus, mon frère !» Et lui, avec la même solennité affectueuse, mettait des « Mademoiselle Planus, ma sœur » au milieu de toutes ses phrases. Pour ces deux êtres timides et naïfs, Paris, qu'ils ignoraient tout en le traversant journellement, était un repère de monstres de deux espèces, occupés à se faire le plus de mal possible, et lorsqu'un drame conjugal, quelques bavardages de quartier arrivaient jusqu'à eux, chacun, poursuivi de son idée, accusait une coupable différent. « Mais c'est la faute du mari, » disait Mademoiselle Planus, ma sœur. « C'est la faute de la femme, » répondait Monsieur Planus, mon frère. « Oh, les hommes, oh, les femmes !» Et c'était là leur éternel sujet de discussion, à ces heures rares de flânerie que le vieux Sigismond
se réservait dans sa journée si remplie et réglée bien droit comme ses livres de caisse. Depuis quelque temps, surtout, le frère et la sœur apportaient dans leurs débats une animation extraordinaire. Ce qui se passait à la fabrique les préoccupait beaucoup. La sœur s'apitoyait sur Madame Fromont jeune et trouvait la conduite de son mari tout à fait indigne. Quant à Sigismond, il n'avait pas de mots assez amers contre la drôlesse inconnue qui envoyait faire payer à la caisse des cachemires de 6 000 francs. Pour lui, il y avait de la gloire et de l'honneur de cette vieille famille, de cette vieille maison qu'il servait depuis sa jeunesse. « Mais qu'est-ce que nous allons devenir ?» disait-il continuellement. « Oh, les femmes !» Un jour, Mademoiselle Planus tricotait près du feu en attendant son frère. Le couvert était mis depuis une demi-heure, et la vieille fille commençait à s'inquiéter d'un retard aussi incroyable, quand Sigismond entra, la figure bouleversée, sans prononcer un mot, ce qui était contraire à toutes ses habitudes. Il attendit que la porte fût bien fermée, puis devant la mine interrogative et troublée de sa sœur, « J'ai du nouveau, » dit-il à voix basse, « je sais quelle est la femme qui est en train de nous ruiner. » Plus bas encore, après un regard circulaire aux meubles muets de leur petite salle à manger, il prononça un nom singulier, si inattendu que Mademoiselle Planus le fit répéter 2 fois. « Est-ce possible ? Oui, c'est comme ça. » Et malgré son chagrin, il avait presque un air de triomphe. La vieille fille n'y pouvait croire. Une personne si bien élevée, si polie, qu'il avait reçue avec tant de cordialité, mais comment était-ce supposable? Sigismond Planus dit « Oh, j'ai des preuves !» Là-dessus, il raconta que le père Achille, un soir à 11 heures, avait rencontré Georges et Sidonie au moment où ils entraient dans un petit hôtel garni du quartier Montmartre. Et cet homme-là ne mentait pas. On le connaissait depuis longtemps. D'ailleurs, d'autres aussi les avaient rencontrés. À la fabrique, on ne parlait plus que de cela. Prisler seul ne se doutait de rien. « Mais c'est votre devoir de le prévenir, » déclara Mademoiselle Planus. Le caissier prit un air grave. Ben, « C'est très délicat. » « Qui sait d'abord s'il voudrait me croire? Il y a des aveugles si aveugles. Et puis en me mettant entre les 2 associés, je risque de perdre ma place. Oh, les femmes, les femmes! Dire que ce Rissler aurait pu être si heureux. Lorsque je l'ai fait venir du pays avec son frère, il n'avait pas le sou et aujourd'hui il est à la tête d'une des premières maisons de Paris. Ben, vous croyez qu'il va se tenir tranquille? « Ah, mais hein, oui, il faut que monsieur se marie, comme si on avait besoin de se marier. Et encore, il épouse une Parisienne, une de ces petits chiffons mal peignés, qui sont la ruine d'une maison honnête, alors qu'il avait sous la main une brave fille à peu près de son âge, une enfant du pays, habituée au du travail, et crânement charpentée, on peut le dire. Mademoiselle Planus, ma sœur, à la charpente de laquelle il avait fait allusion, avait une occasion superbe de s'écrier. Oh, les hommes, mais elle garda le silence. Ceci était une question très délicate, et peut-être en effet que si Richler avait voulu dans le temps, il eût été le seul. Le vieux Sigismond continua. Et voilà où nous en sommes. Depuis 3 mois, la première fabrique de papier peint de Paris est accrochée au volant de cette rien du tout. Oh, il faut voir comme l'argent file. Toute la journée, je ne fais qu'ouvrir mon guichet devant les demandes de Monsieur Georges. C'est toujours à moi qu'il s'adresse parce que chez son banquier, ça se verrait trop, tandis qu'à la caisse, l'argent va, vient, rentre et sort. Mais gare l'inventaire. Ils seront jolis, leurs comptes de fin d'année. Ce qu'il y a de plus fort, c'est que Risler aîné ne veut rien entendre. Je l'ai prévenu plusieurs fois. Prends garde, monsieur Georges fait des folies pour cette femme. Ou il s'en va, haussant les épaules, ou bien il me répond que cela ne le regarde pas, et que Froidmont jeune est le maître. Vraiment, oh, ce serait à quoi? Ce serait à quoi? Le caissier n'acheva pas sa phrase, mais son silence fut gros de pensées dissimulées. La vieille fille était consternée. Mais, comme la plupart des femmes en pareil cas, au lieu de chercher un remède au mal, elle s'égarait dans une foule de regrets, de suppositions, de lamentations rétrospectives. Quel malheur d'avoir pas su cela plus tôt, quand ils avaient encore les Cheb pour voisins. Madame Cheb était une personne si honorable. On aurait pu s'entendre avec elle pour qu'elle surveillât Sidonie, qu'elle lui parlât sérieusement. Au fait, c'est une idée, interrompit Sigismond. Vous devriez aller rue du Mail prévenir les parents. Je vais d'abord penser à écrire au petit Franz. Il a toujours eu beaucoup d'influence sur son frère, et lui seul au monde pourrait lui dire certaines choses. Mais Franz est si loin, et puis ce serait si terrible d'en arriver là. Ce malheureux Risler, il me fait tout de même pitié. Non, non, le meilleur est encore d'aller avertir Madame Cheb. Vous en chargez-vous, ma sœur? La commission était dangereuse. Mademoiselle Planus fit quelques difficultés, mais elle n'avait jamais su résister aux volontés de son frère, et le désir d'être utile à leur vieille amie Risler acheva de la décider. Grâce à la bonhomie de son gendre, M. Cheb était parvenu à réaliser sa nouvelle fantaisie. Depuis 3 mois, il habitait son fameux magasin de la rue du Mail, et c'était un étonnement pour le quartier que cette boutique sans marchandises, dont les volets s'ouvraient le matin pour se fermer à la nuit, comme les maisons de gros. On avait installé des rayons tout autour, un comptoir neuf, un coffre-fort à secret, de grandes balances. Bref, M. Cheb possédait tous les éléments d'un commerce quelconque, sans savoir précisément encore lequel il choisirait. Il y pensait tout le jour en se promenant de long en large à travers le local encombré de plusieurs gros meubles de chambre à coucher qui n'avaient pas pu entrer dans l'arrière-boutique. Il y pensait aussi sur le pas de sa porte lorsque, tout debout, une plume à l'oreille, le petit homme se plongeait avec délice dans le brouhaha du commerce parisien. Les commis qui passaient, leurs carnets d'échantillons sous le bras, les camions des messageries, les omnibus, les portefaix, les brouettes, le grand déballage des marchandises aux portes voisines, ces paquets d'étoffes de passementerie qui frôlaient la boue du ruisseau avant d'entrer dans les sous-sols, dans ces trous noirs bourrés de richesses où la fortune des maisons est en germe, tout cela ravissait M. Cheb. Il s'amusait à deviner le contenu des ballots, était le premier aux bagarres quand un passant recevait quelque fardeau sur les pieds ou que les chevaux d'un camion, impatients et fougueux, faisaient de la longue voiture en travers dans la rue un obstacle à toute circulation. Il avait en outre les 1000 distractions du petit commerçant sans client, la pluie averse, les accidents, les vols, les disputes. À la fin de la journée, M. Cheb, ahuri, abasourdi, fatigué du travail des autres, s'allongeait dans son fauteuil et disait à sa femme en s'épongeant le front « Ah, voilà la vie qu'il me fallait, la vie active !» Madame Cheb souriait doucement, sans répondre. Rompue à tous les caprices de son mari, elle s'était arrangée de son mieux dans une arrière-boutique, ayant vu sur une cour noire, et se consolait en songeant à l'ancienne prospérité de ses parents, à la fortune de sa fille, et, toujours proprement vêtue, avait su déjà s'attirer le respect des fournisseurs et des voisins. mais n'en demandez pas davantage, ne pas être confondues avec les femmes d'ouvriers souvent moins pauvres qu'elles, et garder, malgré tout, un petit rang bourgeois. C'était sa préoccupation constante. Aussi la pièce du fond où elle se tenait et où il faisait nuit à 3 heures resplendissait d'ordre et de propreté. Pendant le jour, un lit s'y pliait en canapé, un vieux châle figurait un tapis de table, la cheminée servait d'office, fermée par un paravent, et sur un fourneau, grand comme une chaufferette, les plats cuisaient discrètement. Le calme, voilà le rêve de cette pauvre femme agitée à toutes les tergiversations d'un compagnon incommode. Dès les premiers jours, M. Scheib avait fait écrire en lettres d'un pied sur la peinture fraîche de sa devanture « Commission, exportation ». Non, pas de mention spéciale. Ses voisins vendaient du tulle, du drap, des toiles. Lui, oh, il était disposé à tout vendre, sans se résigner à savoir au juste quoi. Que de raisonnement cela valait à Mme Scheib le soir à la veillée. « Bon, je ne me connais pas en toile, mais pour les draps, j'en réponds. Seulement, si je fais les draps, il me faut un voyageur, car c'est de Senor et d'Elbeuf que viennent les meilleures sortes. Oh, les toiles peintes, je n'en parle pas, il faudrait être en été. Oh, pour le tulle, c'est impossible. La saison est trop avancée. » Et le plus souvent, il terminait son incertitude en disant « Bah, la nuit porte conseil, allons nous coucher. » Et il y allait au grand soulagement de sa femme. Après 3 ou 4 mois de cette existence, M. Scheib commença à s'ennuyer. Les douleurs de tête, les étourdissements revinrent petit à petit. Le quartier était bruyant, malsain. D'ailleurs, les affaires n'allaient pas. Rien ne marchait, ni les draps, ni les tissus, rien. C'est à ce moment de nouvelle crise que Mademoiselle Planus, ma sœur, fit sa visite à propos de Sidonie. La vieille fille s'était dit en route « Prenons des ménagements ». Mais comme tous les gens timides, elle se débarrassa de son fardeau dès en entrant au premier mot. Ce fut un coup de théâtre. En attendant qu'on accusait sa fille, Madame Scheib se leva, tout indignée. Jamais on lui ferait croire une chose pareille. Sa pauvre Sidonie était victime d'une infâme calomnie. Monsieur Scheib, lui, le prit de très haut, avec des phrases, des airs de tête, rapportant tout à sa personne selon son habitude. Comment pouvait-on supposer que son enfant à lui, une demoiselle Scheib, fille d'un honorable commerçant connu depuis 30 ans sur la place, fût capable de... Oh, long donc. Mademoiselle Planus insista. Il lui en coûtait de passer pour une bavarde, une colporteuse de mauvaises nouvelles. Mais on avait des preuves certaines. Ce n'était plus un secret pour personne. « Et quand cela serait ?» s'écria M. Scheib, furieux de cette insistance. « Est-ce à nous de nous en préoccuper? Notre fille est mariée, elle vit loin de ses parents. C'est à son mari, beaucoup plus âgé qu'elle, à la conseiller, à la conduire. Y a-t-il songé seulement ?» Sur ce, le petit homme se mit à déblatérer contre son gendre, ce Suisse au sang lourd, qui passait sa vie dans son bureau à chercher des mécaniques, refusait d'accompagner sa jeune femme dans le monde et préférait à toutes ses habitudes de vieux garçon la pipe, la brasserie. Il fallait voir de quel air de dédain aristocratique M. Scheib prononçait ce mot « la brasserie ». Et pourtant, presque chaque soir, il allait y rejoindre Riesler, et l'accablait de reproches si l'autre manquait une fois au rendez-vous. Au fond de tout ce verbiage, le commerçant de la rue du Mail, commission, exportation, avait une idée bien nette. Il voulait quitter son magasin, se retirer des affaires, et depuis quelque temps, il songeait à aller voir Sidonie pour l'intéresser à ses nouvelles combinaisons. Ce n'était donc pas le moment de faire des scènes désagréables, de parler d'autorité paternelle et d'honneur conjugal. Quant à Madame Cheb, un peu moins convaincue que tout à l'heure de l'infaillibilité de sa fille, elle s'enfermait dans le plus profond silence. La pauvre femme aurait voulu être sourde, aveugle, n'avoir jamais connu Mademoiselle Planus. Comme tous ceux qui ont été très malheureux, elle aimait à s'engourdir dans un semblant de tranquillité, et l'ignorance lui semblait préférable à tout. La vie n'était donc pas assez triste, bon Dieu. Et puis enfin, Sidonie avait toujours été une brave fille. Pourquoi ne serait-elle pas une brave femme? Le jour tombait. Gravement, Monsieur Cheb se leva pour fermer les volets de la boutique et allumer un bec de gaz qui éclaira la nudité des murs, le brillant des casiers vides, tout ce singulier intérieur assez pareil à un lendemain de faillite. Silencieux, la bouche pincée, dédaigneusement, dans une résolution de mutisme, il avait l'air de dire à la vieille fille « Allez, la journée est finie, c'est l'heure de rentrer chez soi. » Et pendant ce temps, on entendait Madame Cheb qui sanglotait dans l'arrière-boutique en allant et venant autour du souper. Mademoiselle Planus en fut pour sa visite. « Eh bien ?» lui demanda le vieux Sigismond qui l'attendait avec impatience. « Ils n'ont pas voulu me croire et on m'a mise poliment à la porte. » Elle en avait les larmes aux yeux de son humiliation. Le vieux devint tout rouge et lui prenant la main avec un grand respect. « Mademoiselle Planus, ma sœur, lui dit-il gravement, je vous demande pardon de vous avoir fait faire cette démarche, mais il s'agissait de l'honneur de la maison Frobon. » À partir de ce moment, Sigismond devint de plus en plus triste. Sa caisse ne lui paraissait plus sûre ni solide. Même quand Frobon jeune ne lui demandait pas d'argent, il avait peur et résumait toutes ses craintes par trois mots qui lui revenaient continuellement en causant avec sa sœur. « Chabat, confiance !» disait-il dans son lourd jargon de là-bas. Toujours préoccupé de sa caisse, la nuit, il rêvait quelquefois que 10 joannes de partout, elle restait ouverte malgré tous les tours de clé, ou bien qu'un grand coup de vent dispersait les papiers, les billets, les chèques, les valeurs, et qu'il courait après dans toute la fabrique, s'épuisant à vouloir les ramasser. Le jour, derrière son grillage, au calme de son bureau, il lui semblait qu'une petite souris blanche s'était introduite au fond du coffre, en train de tout grignoter, de tout détruire, plus grasse et plus belle à mesure que le désastre augmentait. Aussi, lorsqu'au milieu de l'après-midi, Sidonie apparaissait sur le perron dans son joli plumage de cocotte, le vieux Sigismond frémissait de rage. Pour lui, c'était la ruine de la maison qui passait, la ruine en grande toilette, avec son petit coupé à la porte et sa mine reposée d'heureuse coquette. Madame Rissler ne se doutait pas qu'il y avait là, à cette fenêtre du rez-de-chaussée, un ennemi de tous les instants, qui guettait ses moindres actions, les plus menus détails de sa vie, les allées et venues de la maîtresse de piano, la grande couturière arrivant le matin, tous les cartons qu'on apportait, la casquette galonnée des employés du Louvre, dont la lourde voiture s'arrêtait à la porte avec un bruit de grelot, comme une diligence traînée par de forts chevaux qui menait la maison Frobon à la faillite en grande vitesse. Sigismond comptait les paquets, les pesait de l'œil au passage, et par les fenêtres ouvertes, pénétrait curieusement dans l'intérieur des Rissler. Les tapis qu'on secouait à grand fracas, les jardinières amenées au soleil, pleines de fleurs maladives, hors saison, chères et rares, les tentures éblouissantes, rien ne lui échappait. Des acquisitions nouvelles du ménage lui sautaient aux yeux, se rapportant à quelque forte demande d'argent. Mais ce qu'il étudiait encore plus que tout, c'était la physionomie de Risler. Pour lui, cette femme était en train de changer son ami, le meilleur, le plus honnête des hommes, en un coquin effronté. Pas le moindre doute à garder là-dessus. Risler savait son déshonneur, il l'acceptait. On le payait pour se taire. Certainement, il y avait quelque chose de monstrueux dans une supposition pareille. Mais c'est le propre des natures candides, qui apprennent le mal sans l'avoir jamais connu, d'aller tout de suite trop loin, au-delà. Une fois convaincu de la trahison de Sidonie et de Georges, l'infamie de Risler avait semblé au caissier moins impossible à admettre. Et d'ailleurs, comment s'expliquer autrement cette insouciance devant les dépenses de l'associé? Ce brave Sigismond, dans son honnêteté mesquine et routinière, ne pouvait pas comprendre la délicatesse de cœur de Risler. En même temps, ses habitudes méthodiques de teneur de livres et sa clairvoyance commerciale étaient à 100 lieues de ce caractère distrait, étourdi, moitié artiste, moitié inventeur. Il jugeait tout cela d'après lui-même, ne pouvant deviner ce que c'est qu'un homme en mal d'invention, enfermé dans une idée fixe. Ces gens-là sont des somnambules. Ils regardent sans voir, les yeux en dedans. Et pour Sigismond, Risler y voyait. Cette pensée rendait le vieux caissier très malheureux. Il commença par dévisager son ami chaque fois que celui-ci entrait à la caisse. Ensuite, découragé par cette indifférence impassible qu'il croyait préméditée et voulue, plaquée sur son visage comme un masque, il finit par se détourner, cherchant dans les paperasses pour éviter ses regards faux, et ne parlant plus à Risler que les yeux fixés sur les allées du jardin ou sur l'entrecroisement du grillage. Ses paroles mêmes étaient toutes déroutées, bigles comme ses regards. On ne savait positivement plus à qui il s'adressait. Plus de sourire amical, plus de souvenirs feuilletés ensemble au livre de caisse de la fabrique. « Voici l'année où tu es entré. Oh, ta première augmentation, te rappelles-tu? Oh, nous avons été dîner chez Douy ce jour-là. Puis le soir, au café des aveugles, oh, quelle ribote !» À la longue, Risler s'aperçut du singulier refroidissement survenu entre Sigismond et lui. Il en parla à sa femme. Depuis quelque temps, elle sentait cette apathie rôder autour d'elle. Parfois, en traversant la cour, elle était comme gênée par des regards malveillants qui la faisaient se retourner nerveusement vers la niche du vieux caissier. Cette brouille des deux amis l'effraya, et bien vite elle s'arrangea pour mettre son mari en garde contre les mauvais propos de Planus. « Mais vous ne voyez donc pas qu'il est jaloux de vous, de votre position? Un ancien égal devenu son supérieur, ça le suffoque. Mais s'il fallait s'occuper de toutes ces malveillances, tenez-moi, j'en suis entouré ici. » Le bon Risler arrondissait ses gros yeux. « Toi ? Ben oui, c'est clair. Tous ces gens-là me détestent. Ils en veulent à la petite chef d'être devenue Madame Risler aînée. Dieu sait ce qu'ils se débitent d'infamie sur mon compte. Et votre caissier n'a pas sa langue dans sa poche, je vous en réponds. Quel méchant homme !» Ces quelques mots eurent leur effet. Risler, indigné, trop fier pour se plaindre, rendit froideur pour froideur. Ces honnêtes gens, pleins de défiance l'un pour l'autre, ne pouvaient plus se rencontrer sans un mouvement pénible. si bien qu'au bout de quelque temps, Risler aîné finit par ne plus jamais entrer à la caisse. Cela lui était facile d'ailleurs, Fromont jeune étant chargé de toutes les questions d'argent. On lui montait son mois tous les 30. Il y eut là une facilité de plus pour Georges et Sidonie et la possibilité d'une foule de tripotages infâmes. Elle s'occupait alors de compléter son programme de vie luxueuse. Il lui manquait une maison de campagne. Au fond, elle détestait les arbres, les champs, les routes qui vous inondent de poussière. « Tout ce qu'il y a au monde de plus triste, » disait-elle. Seulement, Claire Fromont passait l'été à Savigny. Dès les premiers beaux jours, on faisait les malles à l'étage au-dessous, on décrochait les rideaux, et une grande voiture de déménagement, où le berceau de la fillette balançait sa nacelle bleue, s'en allait vers le château du grand-père. Puis un matin, la mère, la grand-mère, l'enfant et la nourrice, tout un fouillis d'étoffes blanches, de voiles légers, partaient au grand trot de deux chevaux vers le soleil des pelouses et l'ombre adoucie des charmilles. Alors Paris était laid, dépeuplé, et quoique Sidonie l'aimât, même dans cette saison d'été qui la chauffe comme une fournaise, il lui en coûtait de penser que toutes les élégances, les richesses parisiennes, se promenaient au long des plages, sous leurs ombrelles claires, et faisaient du voyage un prétexte à 1000 inventions nouvelles, à des modes originales très risquées, où il est permis de montrer qu'on a une jolie jambe et des cheveux châtains, annelés et longs bien à soi. Les bains de mer, oh, il n'y fallait pas penser. Risler ne pouvait pas s'absenter. Acheter une maison de campagne, oh, on n'en avait pas encore les moyens. L'amant était bien là, qui n'aurait pas mieux demandé que de satisfaire ce nouveau caprice, mais une maison de campagne ne se dissimule pas comme un bracelet, comme un cachemire. Il fallait la faire accepter par le mari. C'était pas facile, pourtant, avec Risler, on pouvait essayer. Pour préparer les voies, elle lui parlait sans cesse d'un petit coin de campagne, pas trop cher, tout près de Paris. Risler l'écoutait en souriant. Il pensait à l'herbe haute, au verger plein de beaux fruits, déjà tourmenté par ce besoin de posséder qui vient avec la fortune. Mais comme il était prudent, il disait « nous verrons, à attendre la fin de l'année ». La fin de l'année, c'est-à-dire l'inventaire. L'inventaire, mais c'est le mot magique. Toute l'année, on va dans le tourbillon des affaires. L'argent entre, sort, circule, en attire d'autres, se disperse. Et la fortune de la maison, comme une couleuvre brillante, insaisissable, sans cesse en mouvement, s'allonge, se raccourcit, diminue ou s'augmente, sans qu'il soit possible de se rendre compte de son état avant un moment de repos. À l'inventaire seulement, on saura ce qu'il en est, et si cette année, qui semble bonne, le sera définitivement. En général, il se fait vers la fin de décembre, aux approches de Noël ou du jour de l'an, et comme il exige des heures supplémentaires de travail, pour le faire, on s'attarde très avant dans la nuit. Toute la maison est sur pied. Les lampes qui restent allumées dans les bureaux longtemps après leur fermeture semblent participer à l'air de fête qui anime cette dernière semaine de l'année où tant de fenêtres s'éclairent aux soirées de famille. Jusqu'au plus petit employé de la maison, chacun s'intéresse aux résultats de l'inventaire. Les augmentations, les gratifications du jour de l'an dépendront de ce bienheureux chiffre. Aussi, pendant que se débattent les intérêts immenses d'une riche fabrique, à des cinquièmes étages ou dans les petits appartements de banlieue, les femmes d'employés, les enfants, les vieux parents parle de l'inventaire, dont le résultat se fera sentir ou par un redoublement d'économie ou par quelque achat longtemps reculé que la gratification va rendre enfin possible. Chez Fromont Jeune et Rissler aîné, Sigismond Planus est le dieu de la maison en ce moment, et son petit grillage, un sanctuaire où veillent tous les commis. Dans le silence de la fabrique endormie, les lourdes pages des grands livres bruissent en tournant. Des noms appelés à haute voix amènent des recherches dans d'autres registres. Les plumes grincent. Le vieux caissier, entouré de ses lieutenants, a l'air effaré et terrible. De temps en temps, Fromont Jeune, au moment de monter en voiture, arrive, le cigare aux dents, ganté, tout prêt. Il marche lentement sur la pointe des pieds, se penche au grillage. « Eh bien, ça marche !» Sigismond pousse un grognement, et le jeune maître de maison s'en va, sans oser en demander davantage. Il devine bien, à la mine du caissier, que les nouvelles seront mauvaises. En effet, depuis les années de révolution où l'on se battait dans les cours de la fabrique, jamais si pitoyable inventaire ne s'était encore vu à la maison Fromont. Dépenses et recettes se balançaient. Les frais généraux avaient tout absorbé et, de plus, Fromont Jeune se trouvait redevable envers la caisse de sommes importantes. Il fallait voir la mine consternée du vieux Planus quand, le 31 décembre, il monta rendre compte à Georges de ses opérations. Celui-ci prit la chose très gaiement. Tout marcherait mieux dans la suite. Et pour rétablir la bonne humeur du caissier, il lui donna une gratification extraordinaire de 1 000 francs au lieu de 500 que donnait autrefois son oncle. Tout le monde se ressentit de cette disposition généreuse, et dans le contentement universel, le résultat déplorable des comptes de fin d'année fut vite oublié. Quant à Rissler, c'est Georges qui voulut se charger de le mettre au courant de la situation. Quand il entra dans le petit cabinet de son associé, éclairé d'en haut par un jour d'atelier qui tombait d'aplomb sur la méditation de l'inventeur, Fromont Jeune eut un moment d'hésitation, la honte et le remords de ce qu'il venait faire. L'autre, au bruit de la porte, s'était retourné joyeusement. « Charge, charge, mon ami. Oh, je la tiens, notre imprimeuse. Oh, il y a encore quelques petites choses à trouver. Oh, c'est égal maintenant, je suis sûr de mon affaire. Oh, vous verrez ça, vous verrez ça. Ah, les prochains sont beaux s'escrimer. Avec l'imprimeuse Rissler, oh, nous enfonçons toutes les concurrences. » « Bravo, mon camarade, répondit Fromont Jeune. Voilà pour l'avenir, mais le présent, vous n'y songez pas. Et cet inventaire? Ah, tiens, oui, c'est vrai, j'y pensais plus. C'est pas bruyant, n'est-ce pas? » Il disait cela devant la physionomie de Georges, un peu ému, embarrassé. Et celui-ci reprit, « Mais si, très bruyant, au contraire. Nous avons lieu d'être satisfaits, surtout pour notre première année. » Nous avons chacun 40 000 francs de bénéfices, et comme j'ai pensé que vous auriez peut-être besoin d'argent pour donner des étrennes à votre femme. » Sans oser regarder en face l'honnête homme qu'il était en train de tromper, Fromont Jeune posa sur la table une liasse de chèques et de billets. Rissler aîné eut un moment d'émotion. Tant d'argent à la fois pour lui seul. Il pensa tout de suite à la générosité de ces Fromont qu'il avait fait ce qu'il était, puis à sa petite Sidonie, à ce souhait si souvent exprimé par elle et qu'il allait pouvoir satisfaire. Les larmes aux yeux, un beau sourire aux lèvres, il tendit les deux mains à son associé. « Je suis content, oui, je suis content !» C'était son mot des grandes occasions. Puis montrant les liasses de billets étalées devant lui, avec ce léger feuilletage qui en fait de six fugitifs paperasses toujours prêtes à s'envoler. « Savez-vous ce que c'est que ça ?» dit-il à Georges d'un air de triomphe. « Eh bien ça, c'est la maison de campagne de Sidonie. Parbleu !» Chapitre 7. Une lettre. À M. Franz Rissler, ingénieur de la compagnie française, Ismailia, Égypte. Franz, mon garçon, c'est le vieux Sigismond qui t'écrit. Si je saurais mieux mettre mes idées sur papier, j'en aurais bien long à te raconter. Mais ce sacré français est trop difficile et sorti de ses chiffres. Oh, Sigismond Planus vaut rien, alors je vais te dire vite ce qu'il s'agit. Il se passe dans la maison de ton frère des choses qui sont pas bien. Cette femme le trompe avec l'associé. Elle a rendu son mari ridicule, et si ça continue, elle le fera passer pour un coquin. Écoute-moi, mon petit Franz, il faut que tu viendrais tout de suite. Il n'y a que toi qui peux parler à Rissler et lui ouvrir les yeux sur cette Sidonie. Nous autres, ils ne nous croiraient pas. Vite, elle demande un congé et vient. Je sais que toi, ton pain à gagner là-bas, ton avenir à faire. Mais un homme d'honneur doit tenir par-dessus tout à son nom que ses parents lui ont donné. Eh bien, moi, je te dis que si tu viens pas tout de suite, il arrivera un moment où ton nom de Rissler aura tant de honte dessus que tu n'oseras plus le porter. Sigismond Planus, caissier.